Séminaire de politique Saint-Thomas, 7 mars 1984, Saint-Joseph.
Et alors, je vais essayer de regarder l'application de la philosophie politique en théologie, chez saint Thomas, donc voir le gouvernement divin. Alors, c'est un problème très ample et très vaste. Je donnerai les grandes lignes. Il faudrait creuser plus. Et on va... Vous allez voir qu'on va toucher tout de suite des problèmes particulièrement intéressants et des objections assez fréquentes, puisque une objection très fréquente que saint Thomas avait déjà notée, si le mal existe, comment peut-on dire qu'il y a une providence? Ensuite, si Dieu a déjà prévu tout l'ordre, comment peut-on être libre? Enfin, autant de problèmes qui sont très fréquents et qui reviennent souvent. Alors, d'abord, dans le De Veritate, Q5, article 2, cette providence par laquelle Dieu gouverne le monde est assimilée à la providence économique par laquelle quelqu'un gouverne la famille, ou politique par laquelle quelqu'un gouverne la cité ou le royaume, à travers laquelle quelqu'un ordonne les actes des autres à la fin. Donc on voit que la providence en Dieu est assimilée à la providence économique. On va voir ça un petit peu plus loin. Bon, comment verrai-je ça? Je vais d'abord regarder la providence à proprement parler, qui est l'ordre des créatures tel qu'il est pensé en Dieu lui-même, par Dieu. Ensuite, je vais regarder l'exécution de cet ordre, qui est le gouvernement divin. Puis je vais regarder la loi et voir comment la loi va se rattacher à la providence. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on regardera la prudence politique chez saint Thomas. Donc la providence, c'est dans la prima pars, question 22. Où saint Thomas commence tout de suite. La question 22, c'est encore dans ce qu'on appelle les attributs opératifs de Dieu. Et c'est la transposition de la prudence analogiquement en Dieu. Saint Thomas nous dit que c'est la raison d'ordre, ratio ordinis, des réalités vers la fin, qui préexiste dans l'esprit divin. Alors on va préciser un petit peu l'analogie. Le propre de la prudence, c'est d'ordonner vers la fin. Et là, saint Thomas s'appuie sur l'autorité d'Aristote. Mais il s'agit de bien comprendre, parce que la prudence, pour nous, ça, c'est une vertu donc, qui suppose quelque chose d'imparfait à perfectionner, alors qu'en Dieu, il n'y a rien à perfectionner. Alors, la prudence peut se prendre ou bien par rapport à soi-même, c'est-à-dire que l'homme prudent ordonne bien ses actes en vue de la fin, mais en Dieu, rien n'est ordonnable à une fin, parce que Dieu est lui-même la fin ultime. Autrement dit, ce n'est pas de cette prudence-là qu'il va s'agir. Mais il va s'agir de la prudence par rapport aux autres, qui sont sujets dans la famille, la cité ou le royaume. Et cette prudence seule peut convenir à Dieu. On verra à la fin que la prudence va s'étendre au gouvernement de la multitude. Donc la providence, c'est la raison d'ordre des réalités vers la fin. C'est-à-dire que c'est l'intelligence pratique en Dieu. Et donc, pour l'instant, on reste en Dieu, c'est immanent à Dieu, la providence. Dans l'article suivant, donc l'article 2, saint Thomas nous dit que rien n'échappe à la divine providence. Pourquoi? Parce que la causalité de Dieu, première agence, s'étend à tous les êtres. On est parti dans la somme en voyant Dieu, en aboutissant à l'existence de Dieu par la cause finale. Donc sa causalité, Dieu est cause universelle. Saint Thomas reviendra dessus dans le gouvernement divin. Et donc tout ce qui a de l'être, de quelque manière que ce soit, est ordonné par Dieu vers la fin. Alors, juste lire l'objection 2 qui est intéressante. L'objection 2, nous voyons que de nombreux maux existent dans les réalités. Donc, ou bien Dieu ne peut pas les empêcher, et ainsi il n'est pas tout-puissant, ou bien il n'a pas soin de toutes choses. Alors, saint Thomas répond tout simplement, pas tout simplement, la réponse est assez longue, simplement pour dire que la providence divine va permettre certaines déficiences dans des choses particulières, mais qui n'empêchera pas le bien parfait de l'univers, l'ensemble de l'univers. Donc les déficiences seront au niveau de causes particulières, mais pas de la cause universelle. Et saint Thomas a une phrase très jolie ici, il n'y aurait pas la patience des martyrs s'il n'y avait pas la persécution des tyrans. Non esset patientia martyrum, si non esset persecutio tyrannorum. Bon, on va expliciter ça un petit peu après. L'article 3, saint Thomas a une distinction très importante qu'on retrouvera dans le gouvernement divin, vous allez voir pourquoi. Il divise la providence en ratio. Exécution. Pour commencer, on a vu que la providence était la prudence transposée analogiquement en Dieu. La prudence, donc la prudence à proprement parler, j'ai dit la connaissance pratique immanente en Dieu, donc ça va être la ratio, la raison, mais la prudence implique l'application à l'œuvre. Saint Thomas le répète dans la question sur la prudence, il le répète dans 8 articles sur 16. Ça va demander l'exécution, et l'exécution, c'est à proprement parler le gouvernement divin. Et la providence, à proprement parler, c'est la ratio. La ratio, c'est la raison d'ordre des réalités prévu, mais dans le sens prévu, dans ces provisarum, ça vient de donc c'est le même mot providence, hein. Des réalités prévues vers la fin. Et tout ça pour savoir si Dieu est provident immédiatement par rapport à toute chose ou pas. Et on va voir que ici, au niveau de la ratio, la providence, Dieu regarde chaque créature immédiatement. Alors qu'au niveau de l'exécution, il y aura des causes secondes et des intermédiaires. Pourquoi ? Parce que la connaissance demande d'aller. La connaissance pratique, pour être parfaite, demande d'aller jusqu'à dans les moindres détails et donc de regarder immédiatement toutes les réalités. Alors que l'exécution, pour être parfaite, demande au contraire de multiplier les causes secondes. Et on verra ça dans la question 103. C'était la mélie d'hier, d'ailleurs, les causes secondes. Donc la providence, c'est, si on veut, la ratio, le contenu intelligible du gouvernement divin. Alors, petite précision importante aussi, cette distinction n'est pas réelle en Dieu. En Dieu, c'est tout pareil, mais elle est quand même légitime en raison de notre manière de connaître. C'est le théologien qui, en raison de sa manière de connaître, va distinguer tout ça. Et petite note pour les latinistes, le gouvernement, c'est le gubernatio, qui est plus le fait de gouverner que le gouvernement même, ce qui indique bien l'idée d'exécution. Bon, je vais maintenant directement, je saute l'article 4, je vais regarder le gouvernement divin, donc la question 103. Alors la question 103 qui présuppose bien sûr la philosophie politique, mais aussi toute la métaphysique qui est constamment présente. La question 1, c'est de se demander si... C'est de se demander si le monde est gouverné par quelqu'un, à Balikuo. Alors on part de... Nous voyons en effet que dans les réalités naturelles arrive ce qui est le meilleur, ou bien toujours, ou bien la plupart du temps. Donc on part de l'ordre constaté dans les réalités pour aboutir au gouvernement, à quelqu'un qui gouverne. Alors vous vous rappelez qu'on, dans la cinquième voie de saint Thomas, on partait aussi de l'ordre, mais ce n'est pas tout à fait pareil, puisque dans la cinquième voie, on partait de l'existence de l'ordre pour arriver à l'existence de quelqu'un, d'un être premier, alors qu'ici, on part simplement de l'ordre, on regarde l'ordre en lui-même pour montrer qu'il est gouverné par quelqu'un. Mais on ne se pose pas la question de l'existence. Donc nous voyons se produire ce qui est le meilleur, ce qui n'arriverait pas si les réalités naturelles n'étaient pas dirigées vers la fin. La fin du bien, d'ailleurs, dit saint Thomas. Donc gouverner, c'est diriger vers la fin. Ça, il me semble qu'on l'avait déjà vu en politique, c'est très important, ça montre que la fin est constamment présente dans toute la somme, d'ailleurs, et dans ce traité particulièrement. Ensuite, saint Thomas donne une autre raison, qui est une vision de sagesse. D'ailleurs, dans toute cette question, on trouve très souvent à la fois une vision de sagesse et un raisonnement plus métaphysique. Une vision de sagesse à partir de la bonté divine. Il appartient à la divine bonté de conduire les réalités à leur fin. Alors, je rappelle aussi qu'entre la question sur la providence et le traité sur le gouvernement, il y a eu la création, et donc on se situe au niveau des créatures maintenant. C'est plus immanent en Dieu. Entre-temps, il y a eu la création. Enfin, entre-temps, pour nous dans l'étude de la somme. Pas pour Dieu. Bon, autrement dit, si gouverner, c'est conduire à la fin, pour savoir... Maintenant, on va essayer de savoir ce qu'est le gouvernement. Pour savoir ce qu'est le gouvernement, il va falloir voir quelle est sa fin. Alors, saint Thomas commence par directement une vision de sagesse. La fin répond au principe. Si la fin répond au principe, comme le principe c'est Dieu, la fin c'est pas compliqué. Mais ça, c'est bien évident une vision de sagesse. Un principe qui n'est vrai qu'au niveau de Dieu. Le principe est en même temps fin. On a, dans le traité de la création, on voit que Dieu est cause efficiente, cause exemplaire et cause finale. Et ensuite, saint Thomas donne une explication rationnée, en partant du bien. Donc, c'est aussi un raisonnement dans une vision de sagesse. Où il dit que la fin particulière est un bien particulier donc parce qu'il est limité et reçu est un bien participé, donc immanent. Puisque la question, c'est à proprement parler de savoir si la fin est en dehors du monde ou si elle est immanente. Et la fin universelle est un bien universel. Et le bien universel, c'est ce qui est bon par soi et par son essence. Or, dans tout l'univers, tous les biens sont participés. Donc, il faut que le bien qui soit la fin de tout l'univers soit extrinsèque à l'univers. Alors, dans cette question, avec les différentes réponses aux objections, on a toute une vision d'ensemble sur les différents biens possibles. Saint Thomas nous dit qu'il y a d'abord un... Saint Thomas regarde toutes les modalités du bien. On voit d'abord un bien extrinsèque. qui divise ou bien l'œuvre, qui est un certain bien, ce qui est possédé, l'habitum possessum, ce qui est représenté, le representatum. Bon, ça, c'est de l'ordre des biens tout à fait extrinsèques. Mais on a aussi un bien immanent. Le bien immanent, par exemple, pour l'univers, le bien immanent de l'univers, c'est l'ordre même de l'univers. C'est ce qu'on appelle le bien commun, en fait. Donc, pour l'univers, c'est l'ordre. Et puis, on a un bien extrinsèque, mais qui n'est plus du tout celui-là, qui en est un autre, qui pour l'univers, c'est Dieu, puisque saint Thomas nous dit que ce bien, l'ordre de l'univers, n'est pas la fin ultime, mais est ordonné à un bien extrinsèque comme à sa fin ultime. Donc ce bien est ordonné au suivant. Alors ce bien, le premier bien extrinsèque ici, c'est un bien qui est limité. Alors on retrouve ici tout le problème entre le rapport du bien commun, bien propre et tout ce qu'on a déjà vu. Et alors il y a une petite, dans un endroit tout à fait autre de la somme, saint Thomas nous donne une petite hiérarchie des biens qui est assez intéressante. C'est dans la Secunda Secundae, question 117. Assise question 117, il me semble que c'est sur la libéralité, c'est toujours dans le très grand traité de la justice. Où il nous dit qu'il donne la hiérarchie suivante. Le bien divin supérieur au bien humain. Le bien humain se divise en lui-même en bien public et bien privé. Et bien privé se distingue en lui-même en bien corporel et en bien des choses extérieures. Alors ça nous fait comprendre qu'il y a un certain bien propre qui peut être inférieur au bien commun et un autre bien ultime qui sera supérieur, qui pour le gouvernement divin sera le bien extrinsèque de tout l'univers, c'est-à-dire Dieu. Ensuite se pose le problème de savoir si le monde est gouverné par un seul ou par plusieurs. Alors une fois de plus, saint Thomas parle de la fin du gouvernement. La fin du gouvernement, c'est ce qui est essentiellement bon, c'est-à-dire ce qui est le meilleur. Donc le gouvernement du monde est le meilleur. Or, nous dit saint Thomas, le meilleur se fait par l'un. Le gouvernement va diriger les réalités gouvernées vers leur fin. Or, l'unité s'étend à la raison de bonté, dit saint Thomas. Là, c'est un peu rude. C'est toute une vision métaphysique, puisqu'on a l'un qui est propriété de la substance et de l'acte, et que le bien est une modalité de l'acte. L'unité s'étend à la raison de bonté, dit saint Thomas. Donc le gouvernement, ça va être orienté, ordonné vers la fin, c'est-à-dire ordonné vers le bien, et le bien va impliquer l'unité. Donc la qualité du gouvernement demande l'unité. Mais l'unité du gouvernement vient de l'un, parce que ce qui est par soi un peut mieux et plus convenablement être cause d'unité que l'union de beaucoup. d'où la multitude est mieux gouvernée par un que par plusieurs. Et donc le gouvernement du monde, qui est le meilleur gouvernement, est gouverné par un seul. C'est-à-dire que le gouvernement divin a une telle exigence d'unité en raison de sa fin. Puisque la fin d'un gouvernement humain est un bien immanent, alors que la fin du gouvernement divin est un bien séparé. Et c'est ce bien séparé qui va demander une telle exigence d'unité. D'ailleurs, quand Aristote affirme que la multitude est mieux gouvernée par un seul, il le fait dans la métaphysique. Donc on voit bien que toutes ces questions sont baignées dans la métaphysique. Bon, la question je passe à l'article 4. Revêt l'article 5 si tout est soumis, c'est l'extension du gouvernement divin, si tout est soumis au gouvernement divin. Eh bien, oui, rien n'échappe au gouvernement divin. Pourquoi ? Parce qu'il appartient selon la même raison, il convient à Dieu de gouverner les réalités, d'être leur cause. Selon la même raison. Parce qu'il appartient au même de produire les réalités et de leur donner leur perfection. Parce que la perfection d'un être provient de sa nature. Et saint Thomas donne un autre raisonnement en raison de la fin. Puisque la fin du gouvernement, c'est la bonté divine, et que rien ne peut être en dehors de cette fin dernière. Avec toutefois la petite différence entre la façon dont sont gouvernées les créatures raisonnables des autres. Parce que les créatures raisonnables sont gouvernées en appliquant le libre arbitre. Ensuite, on retrouve la question qu'on s'était posée déjà sur la providence, formulée un petit peu autrement, si toutes choses sont immédiatement gouvernées par Dieu. Alors saint Thomas reprend la même distinction, j'allais dire qu'il la prend par l'autre bout, cette fois-ci c'est le gouvernement qui divise en ratio et exécution, histoire une fois de plus de bien préciser l'emploi des termes. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la ratio c'est immédiat, pourquoi ? Parce que la connaissance pratique, pour être parfaite, demande d'aller dans tous les détails, et immédiatement, alors que dans l'exécution, il va y avoir les causes du monde. Alors pourquoi ? Parce qu'un gouvernement sera d'autant meilleur qu'une plus grande perfection est communiquée par celui qui gouverne aux réalités gouvernées. Donc c'est une exigence de la perfection que celui qui gouverne communique la perfection à ceux qui sont gouvernés. Et donc il va donner à ceux qui sont gouvernés d'être cause seconde. Ça peut être une reprise du principe de subsidiarité en le remettant là où il est, quoi, au niveau de l'exécution. Donc autrement dit, Dieu gouverne les réalités en les instituant cause d'autres dans le gouvernement. Bon, je passe assez rapidement pour en revenir après peut-être. Alors, les deux derniers articles, c'est pour savoir si quelque chose peut échapper au gouvernement divin. D'une part, si quelque chose peut être en dehors de l'ordre, d'autre part, si quelque chose peut aller contre l'ordre du gouvernement divin. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la différence entre la cause universelle et les causes particulières. Rien ne peut aller en dehors de la cause universelle, alors qu'il peut très bien se faire que quelque chose se produise en dehors d'une cause particulière. Et c'est de là que viennent tous les déficiences possibles. Avec le problème du mal, mis en objection, où saint Thomas répond que rien ne se trouve dans le monde qui soit totalement mauvais, parce que le mal se fonde toujours sur le bien. Et c'est pourquoi une réalité quelconque est dite mauvaise, par cela qu'elle sort de l'ordre d'une cause particulière de bien. Mais si une réalité sortait de l'ordre de la cause universelle, de l'ordre du gouvernement divin, ben elle ne serait pas du tout. Elle ne peut pas être mauvaise parce qu'elle ne serait pas. Puis pareil pour le problème de la liberté, les êtres peuvent s'opposer d'une façon particulière, mais ils ne s'opposeront pas à la cause universelle. Bon, ça c'est un survol très rapide du gouvernement divin, mais on commence à voir un petit peu comment ça va s'arranger tout ça. Maintenant, je voudrais regarder un petit peu la loi. Pourquoi la loi, vous verrez. La loi, c'est dans la... Thomas Ecoute, question 90 et suivante. C'est là que vous avez des questions très très longues sur la loi ancienne. Des objections invraisemblables. Alors, on va faire tout de suite le lien. Si je regarde la raison du gouvernement, Providence, non plus en elle-même, mais je la regarde en Dieu en tant qu'il est le chef, le prince de tout l'univers. Donc plus en lui-même, mais en tant qu'il est chef de tout l'univers, cette ratio a raison de loi. Nous dit saint Thomas à la question 91. Alors pour ça, il faut peut-être dire ce que saint Thomas a dit dans la question précédente sur la loi. Saint Thomas donne lui-même le résumé d'ailleurs. La loi est un certain jugement, dictamen, de la raison pratique dans le prince qui gouverne une communauté parfaite. Et voilà. La loi, c'est une ordination de la raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté. Donc, rationis ordinatio ad bonum commune, habeo qui curam communitatis habet promulgata. Donc, ordination de la raison en vue du bien commun par celui qui a la charge de la communauté, promulguée par celui qui a la charge de la communauté. Saint Thomas disait dans la question 90 que les propositions universelles de la raison pratique ordonnées aux actions ont raison de loi. Et c'est bien le cas de la Providence. Or, la Providence est... On a vu, il y avait l'application à l'œuvre, l'ordre vers l'œuvre. Alors cette loi en Dieu, c'est ce qu'on appelle la loi éternelle, parce que la raison divine ne conçoit rien dans le temps, c'est une conception éternelle. Autrement dit, la loi éternelle, ça va être la ratio, la raison même de gouvernement en Dieu, raison considérée comme législatrice, si on veut, de toutes les opérations accomplies par les êtres créés. C'est-à-dire, on va regarder là, ce que je disais tout à l'heure, la ratio, la raison de gouvernement en Dieu, en tant que Dieu est le chef, le prince de l'univers. Le chef, c'est prince, princeps. Donc ça, c'est la loi éternelle. Là, un peu plus loin, la question 93. Saint Thomas nous montre que toute loi va dériver de cette loi éternelle. La loi éternelle, c'est donc la raison de gouvernement dans le gouvernant suprême, dans le premier gouvernant. Or, chacun sait que la vertu du moteur second dérive de la vertu du premier moteur. La loi comporte une certaine raison directrice. Autrement dit, la raison de gouvernement va dériver du premier gouvernant au second. Mais la raison de gouvernement dans le premier gouvernant, c'est ce que je disais, c'est la loi éternelle. Et la raison de gouvernement dans les autres, c'est les lois autres que la loi éternelle. Donc toutes les lois vont dériver de la loi éternelle. Alors ça, c'était dans la question 93. Ça, où après avoir donné un rapide tableau des lois, dans la question précédente, saint Thomas étudie chaque loi en particulier. Question 93, c'est la loi éternelle. Bon, alors, si toute loi dérive de la loi éternelle, on va pouvoir arriver à faire un petit schéma tout simple. On a donc la loi éternelle. Et la raison de Dieu en tant qu'il gouverne l'univers. Et cette loi éternelle va être reçue dans la créature, participée par la créature. C'est ça qu'on va appeler la loi naturelle. La loi naturelle, elle est en toute créature, enfin en chacun de nous. Bon, et saint Thomas précise, c'est dans la créature raisonnable, la loi naturelle. Selon la proportion de la capacité de la nature humaine, selon la proportion de la nature humaine. Donc c'est pour les actions proprement humaines. Parce qu'il y aura une autre participation de la loi éternelle selon un mode plus élevé, où l'homme est dirigé vers sa fin surnaturelle, par un mode plus élevé. Ça, c'est la loi divine. La loi divine qui va se distinguer selon l'imparfait et le parfait. L'imparfait, c'est la loi ancienne. Le parfait, c'est la loi nouvelle. Bon, mais là, c'est pas à proprement parler ce que je regarde. Tout regarder de ce côté-là, la loi naturelle.
La loi naturelle donne les principes premiers des actions. Principe premier, c'est indémontrable, dit saint Thomas, la question 91. Bon, mais cette loi naturelle ne va pas suffire, parce qu'il va être nécessaire que la raison humaine procède à des dispositions plus particulières. Ça ne donne que les premiers principes, ça ne va pas être suffisant pour l'homme. Autrement dit, il y aura la nécessité, ici, de lois humaines. Mais les lois humaines qui sont faites par l'homme, du coup, par la raison humaine. Alors tout le problème, très intéressant, va être le rapport entre justement cette loi naturelle et les lois humaines. À savoir qu'une loi humaine qui va contre la loi naturelle perd sa raison de loi. Elle devient loi unique et on n'est plus tenu de lui obéir en tant que telle, si elle s'oppose à la loi naturelle et donc à la loi éternelle. Donc tout le problème délicat va être le rapport entre cette loi naturelle et les lois humaines. L'utilité de la loi humaine. Parce qu'il s'en trouve certains qui sont portés au vice et qui ne peuvent pas être facilement mus par les paroles, il fut nécessaire qu'ils soient empêchés de faire le mal par la force et la crainte, afin que, au moins, en ne faisant pas le mal de cette façon, à savoir par crainte et par force, ils rendent la vie tranquille aux autres. Et aliis quietam vitam rederent. En fait, c'est pour laisser la paix aux autres. Et que eux-mêmes, par une certaine habitude de cette sorte, parviennent à faire volontairement ce qu'ils faisaient d'abord par crainte, et qu'ainsi ils deviennent vertueux. Donc il y a tout le. Donc on voit bien que c'est en vue. Toutes les lois sont en vue du bien commun. Comme on a vu en question 90. Donc, saint Thomas a dit, il fut nécessaire pour la paix des hommes et pour la vertu de poser des lois humaines. Et pour ce que je disais tout à l'heure, si une loi humaine n'est plus en accord avec la loi naturelle, ça ne sera plus une loi, mais une corruption de la loi, plus proprement une loi. Voilà, très très rapidement pour la loi, mais c'est au moins bien d'avoir un peu en tête le schéma. Donc ça, selon la proportionnellement à la nature de l'homme, ça pour un mode plus élevé, pour certains surnaturels. Et puis la loi naturelle qui donne les principes premiers, les lois humaines qui va un peu plus dans le détail.
qui vont plus dans les détails.
Bon, j'ai dit, au début j'ai annoncé que je regarderais toujours très très rapidement la prudence pour essayer de préciser un petit peu ce qu'il y a de propre l'étude de la prudence chez saint Thomas. Et d'autre part, l'analogie qu'on a fait au départ entre la providence et la prudence. Ça c'est là.
La question, que dites pas de bêtises, 48 et suivante.
Alors dans ce traité de la prudence, les références à Aristote sont très très fréquentes, constamment, dans l'éthique, au livre 6. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord rapidement la première question, la prudence est une vertu spéciale, donc distincte des autres, de la raison pratique, qui sera connaissance non seulement des principes universels, mais aussi des singuliers sur lesquels portent les actions. Pourquoi connaissance des singuliers? Parce que la prudence implique l'application à l'œuvre, et l'application à l'œuvre, les actions se font toujours dans le singulier, et pas dans les principes universels. Et l'application à l'œuvre, c'est la fin de la raison pratique. Donc la prudence va regarder les moyens, dit saint Thomas, en appliquant les principes universels aux conclusions particulières des actions. Non, je viens dans la traduction là, atubilium, on traduit action, affaire. On ne comprend plus beaucoup. Les actions, c'est pas affaire. Donc la prudence, ça va être conseiller, juger et commander droitement de ce par quoi on parvient à la fin requise. Donc la prudence, la célèbre petite formule, la recta ratio agibilium, la droite raison des actions à accomplir. Bon, donc, regarde les moyens en vue de la fin requise, mais cette fin peut être diverse. Autrement dit, on va avoir une raison commune de prudence qui va être cette droite raison des actions à accomplir en vue de la fin qui peut être diverse. Donc on va pouvoir regarder diverses fins qui vont être poursuivies. Et comme on le sait, les habitudes se diversifient selon la fin. La prudence regarde les moyens, mais les moyens prennent leur raison formelle de la fin. Autrement dit, les fins diverses vont diversifier des espèces de prudence différentes. Autrement dit, on aura toujours une raison commune de prudence qui sera la droite raison des actions à accomplir, mais on aura des espèces de prudence différentes selon la fin. Alors c'est ce que on va avoir un grand schéma des différentes prudences.
Pour Tout ça, c'est dans la question. La question 48, où saint Thomas se demande quelles sont les différentes parties de la prudence. Et là, il regarde les différentes façons dont une partie peut être partie. D'abord, comme partie, les parties intégrantes, c'est-à-dire que comme le mur et le toit forment une maison. C'est-à-dire que quatre murs sans un toit, c'est pas une maison, et puis un toit sans quatre murs, ça tient pas. Ensuite, les parties subjectives de la prudence, c'est comme saint Thomas nous dit, le bœuf et le lion par rapport à son partie animal. C'est-à-dire que le bœuf est pleinement animal sans le lion. Réciproquement, le lion est pleinement animal sans s'occuper du bœuf, autrement que pour sa nourriture. Ce sont les parties subjectives. Alors c'est ici qu'on va regarder les différentes espèces de la prudence. Donc, combien ça va regarder la prudence par laquelle quelqu'un se régit soi-même, c'est-à-dire va ordonner ses propres actions à la fin. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prudence, tout simplement. Prudence simpliciter dicta, dit simplement, simpliciter. Ou bien la prudence par laquelle quelqu'un va régir la multitude. Bon, mais il y a plusieurs espèces de multitude. Il y a plusieurs fins possibles dans la multitude. Alors, ou bien on regarde là. Donc, s'il y a plusieurs espèces de multitude, ça va donner plusieurs espèces de prudence. Ça donne. Ben, ça va encore donner deux choses. Ça dépend si on la regarde. Là, c'est particulièrement intéressant chez saint Thomas. Si on la regarde d'abord dans le chef, je ne sais pas trop comment traduire, dans le prince, le chef, qu'on appelle là, en latin, la regnativa, la prudence royale. Alors pourquoi royal ? Saint Thomas s'en explique parce que il a lui-même noté l'objection que pourquoi on prend la royauté pour dénommer la prudence et pas les autres formes de gouvernement. Alors le temps que je le retrouve, on va l'expliquer. Parce que le royaume, c'est la communauté parfaite. Voilà, le royaume est le meilleur régime, et là, saint Thomas s'appuie sur Aristote. Bon, mais saint Thomas dit, sous la prudence royale, on comprendra tous les autres régimes droits. Donc on le nomme royal à partir du gouvernement le plus parfait, mais on comprend tous les autres gouvernements droits, c'est prudence royale. Mais pas les régimes droits, mais pas les régimes pervers, parce que ils ne s'étendent pas à la prudence, parce qu'opposé à la vertu en tant que pervers. Donc cette prudence royale, c'est aussi, là saint Thomas, dans un autre vocabulaire, c'est aussi celle qu'on appelle legis positiva, celle qui pose les lois. Parce que c'est la fonction principale du roi de poser des lois. Saint Thomas dit, là où se trouve une raison spéciale de commandement et de régime dans les actes humains, là aussi se trouve une raison spéciale de prudence. Or, de raison spéciale de commandement, il s'en trouve une spéciale et parfaite en celui qui doit non seulement se régir lui-même, mais aussi la communauté parfaite de la cité ou du royaume. Et donc, on aura une prudence particulière qui sera la prudence royale.
Bon, mais si je la considère dans le chef, on va aussi la considérer dans les sujets. Et c'est ce qu'on appelle, pour en parler, la politique. Quand on appelle politique, ou bien on prend le nom global pour les deux, ou bien plus proprement on le prend pour celle-là, dans les sujets. Voilà, c'est très intéressant. D'abord, ça va commander toute une notion de l'obéissance. C'est intéressant de savoir qu'on peut être prudent en obéissant. Je crois que même il faut, d'ailleurs. Et alors, saint Thomas consacre un article pour savoir s'il y a effectivement une politique dans les sujets ou pas, parce que c'est un problème très important. Alors d'abord, dans la question 47, la prudence est dans la raison. Article 12. La prudence est dans la raison, le propre de la raison est de régir et de gouverner. Bon, mais il n'appartient pas au sujet en tant que sujet de régir et de gouverner. Donc, la prudence n'est pas une vertu de l'esclave en tant qu'esclave, ni du sujet en tant que sujet. Mais il y a quand même une prudence parce que l'esclave ou le sujet, il est homme et il possède la raison. Et l'homme, en tant que raisonnable, participe du gouvernement selon l'arbitre de sa raison. Et donc, il lui convient d'avoir la prudence. Donc, c'est parce qu'il est homme, quoi, qu'il possède la raison et le libre arbitre. Alors, autre petit problème, s'il y a une prudence politique, une prudence royale, est-ce qu'on va vraiment avoir deux espèces différentes ? Est-ce qu'il y a vraiment une espèce différente de prudence dans le prince, dans les sujets. Saint Thomas s'est posé la question. Les mêmes actions. Je vais peut-être regarder, lire l'objection, peut-être, si on peut. Les espèces d'habitus se distinguent selon divers objets. Mais ce sont les mêmes choses qu'il faut que celui qui dirige commande et que les sujets exécutent. Donc celui qui commande une action, c'est cette même action qu'exécutent les sujets. On dit, est-ce qu'il va y avoir quand même une espèce différente de prudence ? Et saint Thomas répond que les mêmes actions sont considérées par le roi, selon une raison plus universelle qu'elles le sont par le sujet qui obéit. Donc on a une raison plus universelle dans le roi, dans les sujets. Bien, je continue ma petite promenade autour de la prudence, la multitude. Ensuite, on peut regarder la multitude réunie en vue de la vie, de totam vitam, qui va être la multitude de la maison, de la famille. Et on a la prudence économique. Alors c'est quand même intéressant de voir que la communauté de la famille suffit à poser une prudence particulière. Si on veut réfléchir sur la famille, je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Puis une autre prudence, encore une,
on va regarder la multitude réunie en vue d'une activité particulière. Là, ce sera proprement la prudence militaire. Peut-être plus inattendu que les autres. Ça t'aura la donne. Je veux dire plus inattendu comme prudence, parce que on s'attendrait plus que ce soit un art. Saint Thomas relève, oui. Où il nous dit qu'effectivement, l'activité militaire, militaris, peut être considérée ou bien comme un art, ou bien comme prudence, en tant que cette activité est ordonnée au bien commun. Donc la prudence militaire, ça va être, au fond, résister aux attaques extérieures, donc sauvegarder le bien commun. Il nous donne l'analogie politique, prudence militaire, analogue au concupiscible et à l'irascible. L'irascible est bien difficile, ardu, pour défendre son bifteck. Alors, aussi, autre chose, ou bien justifier que l'activité militaire donne une prudence particulière, mais que d'autres activités ne donnent pas une prudence militaire. Pourquoi ? Parce que cette prudence a l'activité militaire a un rapport particulier au bien commun que les autres activités n'ont pas. Si vous voulez, les autres activités dans la cité ont pour fin des utilités particulières et pas le bien commun. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prudence. Voilà en gros un survol assez rapide de la question. Alors, je vais m'arrêter là si vous avez des... Alors, bien sûr, on aurait pu y passer beaucoup plus de temps à exposer tout ça. J'ai essayé de donner les grandes lignes, pour vous donner envie de regarder ce qu'il y a là-dedans. Et si vous avez des questions, tout de suite.
Tu dis, la nature est des principes premiers à démontrer. Quels sont-ils ? Pas que ce soit Rousseau. Rousseau parle beaucoup de la nature.
Est-ce qu'il la cite à ce niveau-là ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, comme tu dis qu'il y a des principes premiers démontrables, il faut savoir ce que c'est, parce que tu fais un rapprochement à peu près avec la nécessité de l'héros humain. Alors, pour voir le rapport, il faut savoir...
Ça vient d'où ? Ça vient simplement, la loi naturelle, ça vient simplement de la loi, elle vient de la loi éternelle, donc de l'ordre même en Dieu, l'ordre des créatures en Dieu.
Et comment peut-on connaître la loi naturelle ?
C'est une grosse problème.
Que ça répond à sa question.
Oui, c'est ça, c'est le comment.
Comment pour répondre à saisir ces principes premiers à démontrer.
Voilà, c'est ça. On va les démontrer, mais on les saisit.
Dans la vision de Saint Thomas, est-ce que ça ne présuppose pas tout le développement d'une éthique humaine où l'homme a découvert sa finalité? Et puis ici, dans un regard de sagesse, on regarde tout cela par rapport à Dieu.
On est dans un regard, on est en théologie.
On est en théologie.
On est en théologie. On n'est pas en philosophie. Donc c'est un regard de sagesse, sur vous. Ça correspond exactement comme dans une vision de sagesse, où la nature correspond aux intentions profondes de Dieu, de la sagesse de Dieu. La nature est toute nature est une intention qui correspond aux intentions de la sagesse de Dieu. Et au fond, cette loi naturelle, les principes premiers démontrables, que ça correspond à cette sagesse de Dieu sur l'homme et l'orientation de l'homme vers sa fin propre.
Un homme qui n'a pas une vie finalisée ne peut pas connaître cette loi naturelle.
Absolument.
Il n'y a pas de conscience.
Absolument pas. Il peut le déformer.
J'avais posé une question double. Est-ce que, d'après tout ce que tu nous as exposé, le gouvernement divin, ensuite justement toute cette considération sur la loi éternelle nous dérive de toutes les autres lois. Est-ce qu'on peut conclure de cela qu'il y aurait moyen de tirer une politique humaine, de la théologie de saint Thomas, donc une politique chrétienne? Par exemple, quand tu dis le bien immanent de l'univers est ordonné au bien extrinsèque, ou ensuite, quand tu dis que toutes les lois, selon saint Thomas, dérivent de la loi éternelle, on peut tirer de là une politique chrétienne. Je ne sais pas, ma question n'était pas assez précise.
Je ne sais pas si on peut, parce qu'on a... Au fond, il faudrait savoir si ça donne un nouveau principe, une politique chrétienne. Alors là, on a le bien immanent de l'univers, c'est le bien commun qu'on avait déjà avant, c'est l'ordre même de l'univers. Quant au bien extrinsèque qui est Dieu, au fond, c'est le bien extrinsèque de l'univers, mais c'est le bien personnel de chacun d'entre nous, plus que le bien. Alors est-ce que c'est peut-être pas un nouveau bien commun ?
Saint-Père doit avoir une prudence particulière, comme pape, il me semble. Ce n'est pas la prudence ordinaire. Et quand font l'infaillibilité, je viens donner à cette politique une espèce de régulation mystérieuse, divine, par rapport à tout ce qui regarde directement la foi et la fin propre de l'homme. Et un secours particulier de Dieu, ce qui montrerait bien qu'il n'y a pas de politique chrétienne. Parce que s'il y avait une politique chrétienne, le pape n'aurait besoin d'être faible. Il me semble que l'infaillibilité même du pape montre bien qu'il faut un secours particulier de Dieu pour gouverner l'Église dans un sens où humainement parlant, la prudence ne suffit pas. Il faut un secours de Dieu. Parce que la politique chrétienne ne serait qu'à l'intérieur de l'Église. Alors, à l'intérieur de l'Église, on peut parler d'une politique, comme on peut parler d'une politique à l'intérieur d'une communauté. Toute communauté a une politique. Et à l'intérieur de l'Église, il y a sûrement une politique chrétienne. Mais cette politique chrétienne, qu'est-ce qu'elle est ?
Est-ce que le gouvernement de la communauté politique, le gouvernement de la communauté politique, de ne pas avoir le souci, si on se tient à cette vision théologique, d'ordonner le bien commun de la communauté politique au bien extrinsèque.
Exactement.
Alors, mais de quelle manière ?
De quelle manière ? Et je crois que c'est là où, au fond, ça me semble très difficile de pouvoir dire qu'il y a quelque chose d'acquis. Et alors, ce n'est pas à cause de ça qu'il faut nécessairement un secours particulier de Dieu. L'infaillibilité du Saint-Père est quand même... Pour celui qui gouverne, c'est pas pour lui, il peut pécher, lui. Mais en tant qu'il gouverne, non, il ne péchera pas. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose qui indique justement qu'il y a là un hiatus que intellectuellement nous ne pouvons pas. Il y a une théologie qui doit éclairer, il me semble, la politique de l'Église. La politique chrétienne implique une théologie, et une théologie très très. Mais c'est l'application de ça dans le concret, et ça semble tellement difficile qu'il faut un second particulier.
C'est pas pour ça qu'on parlerait de gouvernement instrumental, si bien que l'arrêté de l'homme est très difficilement imaginé.
Instrumental dans quel sens? Le pape n'est pas un instrument instrumental, le pape est qu'au second. L'alliance, quand on regarde l'alliance avec le pape, c'est instrumental. Avec Marie, c'est instrumental comme mère, comme la grâce. La seule alliance avec Dieu comme l'Église qui touche le second, c'est le Saint-Père, c'est le pape, c'est Pierre. Saint-Pierre est second dans son gouvernement. fait, il faut un secours par plus de Dieu, il n'est pas instrument, on va dire. Là, il faut un sacrement. Pas un nouveau sacrement. C'est, ça touche au sacrement de l'ordre. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la juridiction.
Mais s'il y avait un principe de politique chrétienne, il n'y aurait pas besoin d'infaillibilité du pape. Dieu n'aurait pas besoin d'un élément. Il n'y aurait qu'à suivre le principe.
Il n'y aurait qu'à suivre, il n'y aurait qu'à être intelligent.
Et si le pape n'était pas intelligent?
C'est pas de l'intelligent, mais un surcroît du Seigneur qui est là. Oui, de toute façon, celle-là, c'est la parole de Catherine de Sienne. L'Église va à peu près droit, parce que un pape donne un coup de gaffe à droite et l'autre donne un coup de gaffe à gauche. C'est un peu ça, je crois. Il me semble.
Est-ce que l'infaillibilité ne se situerait pas plus au niveau de l'ordre du pape en tant qu'il ordonne des lois et non en tant qu'il gouverne?
Pouvoir de juridiction, est-ce que vous pouvez faire les distinctions là?
Oui, on a vu par exemple que le roi, le propre du roi était de. C'était d'ordonner, c'était de faire des lois.
Oui, mais c'est vrai, dans ça, c'est au niveau de la prudence. Au niveau de la prudence. La prudence regarde le point de vue de l'intention, la prudence regarde le point de vue du choix, et la prudence regarde l'impérium. Et l'impérium, vous avez en pratique.
C'est pour ça que le cas de l'infaillibilité du père, on voit bien que c'est au niveau des lois, au niveau des dogmes.
Au niveau des dogmes, sûrement, au niveau des dogmes, mais ça s'étend plus. Vous voyez ? C'est plus, c'est pas uniquement le point de vue de l'homme. Bon, le point de vue des dogmes, sûrement, c'est évident, là, il règle ses points de la foi, il peut préciser au point de vue de la foi, mais quand le pape, par exemple, canonise, l'infaillibilité du pape est engagée dans la canonisation. Alors, c'est l'ordre pratique, c'est l'ordre d'application, c'est pas un ordre de... Vous voyez, c'est d'un autre cause exemplaire de base. L'infaillibilité du pape est engagée dans le point de vue de l'enseignement commun de l'Église, à propos de la pratique. Il me semble que ça s'étend plus, vous voyez, que uniquement la loi, mais aussi l'application.
Dans une encyclique, est-ce qu'il met en...
Vous savez que c'est toujours très discuté, ça dépend quelle encyclique. On ne va pas dire d'avance dans une encyclique, dans n'importe quelle encyclique, il engage son infaillibilité. Par exemple, l'encyclique sur le sens de la souffrance. Vous voyez, prenez celle-là. Est-ce qu'il engage son infaillibilité? Discuter ça. Dans une encyclique qui regarde un point de vue, vous voyez, un point de vue, par exemple, pour la famille, hein, et qui touche à des principes, à la langue, dit oui. Parce qu'il regarde toute la doctrine générale de l'Église. Bon, dans l'encyclique sur le sens de la souffrance, il regarde, je dirais que la faillibilité est en plus, dans le sens qu'il regarde comme ça de la rédemption. C'est une application du sens de la rédemption. L'encyclique sur le travail. Est-ce que la faillibilité du pape est engagée? Oui, comme c'est pour ça que je ne peux pas dire d'emblée que dans toute encyclique du pape, la faillibilité est engagée. Tout dépendra du sujet regardé par rapport à la tradition et par rapport au dogme. Dans la mesure où c'est une application directe de la tradition et de l'enseignement traditionnel de l'Église, on peut dire que la faillibilité est engagée. Mais pour le travail, c'est beaucoup plus délicat. Oui, l'encyclique sur le travail.
Oui. Mais pourquoi demander ordinairement, on sort du sujet, mais pourquoi demander ordinairement que pour que le pape se mette en dogme qui soit infaillible, pour qu'il agace son infaillibilité? On dit qu'il ne faut même pas aller à la cathédrale, on donne quatre conditions.
Oui, diverses conditions.
On ne va pas demander l'Église.
Marquez que ce n'est pas de définir ces conditions, elles étaient précisées après. Quand vous regardez la définition même de la faillibilité, c'est tout simplement quand le pape parle au nom de l'Église universelle, quand il s'agit en matière de foi et de mœurs. c'est-à-dire la finalité du point de vue de la prudence, c'est le point de vue moral. C'est ce qui est engagé. Mais, autrement dit, c'est le gardien du troupeau, et je crois qu'on doit le prendre ça, ne fait pas être mon troupeau. Or, il le fait pour pouvoir faire paître le troupeau du Christ, il doit regarder la finalité, donc la foi, et la personne humaine, immédiatement, est suivie par la foi. Il me semble que c'est les deux. Oui. Donc, c'est la brebis. Tout ce qui regarde les brebis. Pas cher, pas la smer, ça fait pas être mes brebis. Ça. C'est pas l'homme, c'est les brebis du Christ. T'entends qu'il fait pas être les brebis du Christ.
Et quand il s'adresse à une place particulière, comme par exemple la lettre au prêtre qui a été lue hier, disant que ce sera enseigné dans l'Eucharistie à ce moment-là, on peut considérer...
Oui, parce que cette partie est principale dans l'Église. Voilà. Alors on peut dire ça, que c'est une partie principale dans l'Église et qui engage là la doctrine de l'Église, traditionnellement. Oui. Mais on ne pourra pas... Je suis persuadé que vous demanderez ça à un calviniste, il dirait non, la faillibilité du pape n'est pas engagée. Alors, je crois qu'il y a les deux aspects. Hein. Au point de vue strictement académique, au point de vue juridique, je ne crois pas qu'on puisse dire que la faillibilité du pape est engagée. Je crois qu'on peut dire que la faillibilité du pape est engagée dans l'enseignement commun du pape. Alors, l'infaillibilité est implicite, la distinction du fond, elle est implicite, c'est-à-dire qu'elle est en acte implicite.
On a vu que quand une loi humaine s'oppose à la loi naturelle, ou va contre une loi naturelle, on doit lui désobéir. Enfin, on peut ou on doit, parce que...
Ça dépend de lui désobéir. Elle n'oblige plus, voilà ce que je dirais.
Elle n'oblige plus,
donc si on est obligé de suivre telle ou telle chose, on désobéit à la loi, mais on n'est pas obligé de désobéir à la loi. Elle n'oblige plus.
C'est ça. La très grande difficulté, c'est de savoir où la loi humaine... commence à s'opposer à la voie naturelle. Parce que c'est quelquefois très très difficile de voir la limite, de voir la frontière.
Très délicat. Très délicat. C'est parce que la loi naturelle, vous voyez, au fond, est une loi naturelle qui est nécessairement indéterminée, elle n'est pas positive. La loi naturelle est une chose très très... C'est principe général. Tandis que la loi humaine va préciser, elle va dans les précisions, tel ou tel aspect qui semble en contradiction.
Alors est-ce que ce sera uniquement une question de conscience pour chacun? On ne peut pas faire
plus.
Plus
que ça. Question d'objectif.
Qu'est-ce qui est objectif?
Je crois que c'est là où la théologie morale, tout simplement le philosophe, si le philosophe avait vraiment sa conscience morale bien analysée, devrait dire et éclairer. Et c'est ce qui se fait pratiquement. Et qui est une loi unique, pratiquement où l'Église, dans son enseignement des évêques, déclare que cette loi est unique. Oui. Bon, ici, pour la loi pour vis-à-vis de la liberté de l'enseignement, c'est ouvertement. Une telle loi serait une loi qui serait unique parce qu'elle empêcherait la finalité de la loi. Discours du cardinal Lustiger, il était très très net. Il s'est placé suffisamment haut pour pouvoir le dire avec netteté. C'est-à-dire en prenant tout simplement la liberté de l'enseignement. La liberté de l'enseignement fait partie des libertés essentielles de l'homme. Et je crois que c'est ça qui a frappé le plus. Parce qu'on a vu que le clergé, dans le cardinal, Gilles, du moins les évêques, ça mettrait nettement leur veto dans cet état qui est purement laïque. On ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à l'ensemble des évêques français. Toutes ces choses très mystérieuses et curieuses.
Est-ce qu'on va pouvoir discerner à partir de la fin alors pour
le... On va revenir à notre sujet. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question à poser par rapport à ce qui a été dit? Oui.
Saint Thomas parle d'une violence économique au niveau de la famille, mais c'est une violence aussi au niveau de l'éducation. Est-ce qu'il en parle, Saint Thomas?
Pas autant que ça. Est-ce que ça, est-ce qu'il va y avoir une, est-ce qu'il y a besoin d'une prudence nouvelle pour l'éducation, ou est-ce que c'est pas dans la mesure où l'éducation se fait d'abord à l'intérieur de la famille, puis à l'intérieur de la cité, est-ce que ça ne va pas relever de cette prudence-là?
Oui, ça relève, tout ça.
Y compris dans la prudence économique.
Tout à fait. Parce que l'économie n'est pas du tout dans le sens de nous. C'est le sens de l'économie là, c'est le sens de la direction de la famille. Et qu'il est responsable de la famille, comme père de famille. Comme père et mère de famille. Alors aujourd'hui, l'économie, il faudrait tout servir économique. Il faut dire la prudence du père de famille responsable du développement de sa famille. Et de la finalité propre de la famille, c'est-à-dire de pouvoir éduquer ses enfants, de pouvoir éduquer ses enfants pour avoir des hommes. Ça, c'est appliqué dedans.
Parce que là, les termes sont claqués sur le latin, quoi. Je pas forcément la signification qu'on donne actuellement au français.
Ce matin, on avait trois types d'éducation. Est-ce que l'éducation de l'Esprit Saint ne serait pas nous enseigner la voie divine parfaite? L'éducation, l'auto-éducation, la loi naturelle, et l'éducation familiale, la loi humaine.
Oui. L'éducation de l'Esprit Saint, c'est sûrement. Et c'est, vous voyez, c'est la loi divine, et la loi divine dans toute sa profondeur. Parce que, vous voyez, on peut dire ça que c'est l'éducation divine, sûrement. Vous voyez, l'éducation, cette mainmise qu'on doit prendre sur soi-même par le point de vue d'une éducation qui se fait à partir de l'amitié. Ce que je crois très fort, très important. Je crois vraiment qu'il y a trois niveaux. Quand on réfléchit, on voit bien trois niveaux. Et c'est important parce que dans la mesure où on ne les voit plus, alors on fait des confusions. Donc il y a bien trois niveaux. Et sûrement que ça se correspond bien à ces lois. La loi naturelle, qui est la plus profonde et qui s'explicite dans cette capacité d'aimer. Et ça relève de la loi naturelle. Ça. L'amitié relève de la loi. Tandis que la question du devoir fait ceci, eh bien ça c'est beaucoup plus conventionnel. À partir de 3 ans, je ne sais pas quel âge on va à l'école. De tel âge, tu iras à l'école. Ça c'est très conventionnel. Tu dois y aller. Pas du tout, moi j'ai envie d'y aller 10 ans. Il est obligé de dire que c'est conventionnel de point de vue. Vous voyez. Donc c'est humain, c'est juste. C'est assez juste. Ça correspond à ça. Je ne l'ai pas vu du tout de ce côté-là, mais ça se correspond. Si c'est vrai, c'est bien d'avoir des correspondances. C'est pas possible autrement. Parce que loi divine, loi naturelle, loi humaine, c'est quelque chose de très fondamental. Et comme une prudence.
Oui. Est-ce que le problème de la loi humaine, notamment les lois qui sont données par le chef, par la tête, est-ce que précisément, il n'y a pas tout le problème qu'elle implique la loi naturelle, mais qu'elle doit respecter la loi naturelle? Et puis c'est plus simplement des lois familiales. C'est tout le problème de la. Quelle sera exactement cette loi au niveau du chef? Parce que ça sera plus simplement des lois de devoir. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc est-ce qu'elle nécessairement, il n'y a pas une. Précisément, c'est pas le point clé de la politique où il y a une composition entre la loi naturelle, qui est très claire en théologie, mais qui est beaucoup moins claire en.
Toujours. Parce qu'enfin, c'est les lois positives, comme on dira, et les lois humaines sont positives. Elles viennent préciser la loi naturelle. Et je viens de préciser du côté du conditionnement, c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours quelque chose un peu de conventionnel. La loi naturelle, elle, n'est pas conventionnelle. Elle est naturelle fondamentalement. Et elle correspond à la finalité. Oui. Tandis que les lois humaines correspondent à tout un tas de choses. Qui correspondent, comme vous dites, au bien commun de la famille, au bien commun de l'État, au bien commun. C'est des lois naturelles. Oui. Sûrement. Là, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est cette question que je voulais vous poser. Comme en faisant la fauche. Nous sommes partis pour essayer toujours, n'est-ce pas, de comprendre ce que c'est que la politique. Et instinctivement, vous vous êtes tourné vers la prudence. Alors, je voudrais savoir les analogies possibles, puisqu'au fond, on peut avoir une philosophie politique. Dans une philosophie politique, la prudence est une pièce très importante, c'est sûr, et ce n'est pas tout. On l'a bien vu. Quand on a regardé Aristote, on a vu qu'il y avait beaucoup d'autres choses que la prudence qui constituaient le point de vue politique. Ce qui est très curieux, c'est quand vous transposez ça, analogiquement, au point de vue de la théologie, quel est l'analogue le plus important qu'on transpose? Je ne sais pas si je m'explique suffisamment clairement, parce que ce n'est pas commode d'expliquer. Nous avons une philosophie politique. Une philosophie politique existe. On s'est posé la question, on se reposera la question, et on la posera indéfiniment. Y a-t-il dans la philosophie politique de nouveaux principes par rapport à l'éthique? Vous vous souvenez, on avait posé le problème dès le point de départ, et au fond, c'est un des problèmes sur lequel nous devons réfléchir. Je crois qu'on doit réfléchir sur ça, parce qu'au point de vue philosophique, ça me semble les choses les plus importantes. Y a-t-il un principe propre en politique? Y a-t-il une politique chrétienne? Y a-t-il une politique religieuse? Vous posez ces questions, parce qu'on a vu en éthique. En éthique, on est sûr qu'il y a trois niveaux. J'en suis de plus en plus certain, il y a les trois niveaux. L'éthique humaine, l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne. Au plan politique, pouvons-nous prolonger politique humaine, politique religieuse? On aurait nos chers musulmans en politique religieuse, on voit bien, qui ont une politique religieuse. Et puis, politique chrétienne, on aurait Saloum, comme aujourd'hui, il faut plutôt regarder dans l'archéologie pour trouver une politique religieuse. Mitterrand, on dit, en faisant appel aux évêques, on fait un appel à une politique religieuse, on appelle une politique chrétienne, du reste, qui reste, débaptisé, il ne faut pas l'oublier, donc on peut avoir une réminiscence de politique chrétienne. Alors, y a-t-il ça? Et puis, c'est trois, et puis, vous transposez ça en théologie. On a toujours le même problème. Comment la théologie se sert de la philosophie politique? Vous avez exposé une pensée théologique, celle de saint Thomas. Vous avez raison, c'est ça qu'on vous demandait. Et dans cette pensée théologique de saint Thomas, vous exposez ce qu'est le gouvernement divin. Parce qu'au fond, je crois qu'en effet, le gouvernement divin, l'économia, pour parler comme les pères de l'Église, le gouvernement divin représente bien, dans l'aspect de la théologie scientifique, le point de vue propre d'une politique. Politique divine. Alors, qu'est-ce qu'on utilise au point de vue proprement théologique? C'est une réflexion sur ce que vous avez. Vous avez fait. Qu'est-ce qu'on utilise pour une théologie qui se fait théologiquement au niveau divin, d'une philosophie politique comme élément? Vous n'avez pas réfléchi à la question? Un peu, tout le temps. Vous avez quand même pris des points essentiels dans votre analyse. Vous avez pris la finalité. Vous avez pris un seul qui gouverne, qui est parfait. Vous avez pris après la loi, puis vous avez ensuite la prudence. Hein? Si je vous ai bien suivi, c'est un peu les éléments qui ont été impliqués dedans. Et vous avez pris ces points, et c'est bien d'avoir fait comme ça, parce que c'était la seule manière. Hein? Un sujet aussi vaste, il fallait prendre des quelques axes. L'axe de la finalité. Un seul gouvernant. Je ne sais pas si l'ordre est tout à fait parfait, mais ça, c'est pas l'importance. C'est bon. La finalité, un seul qui gouverne, c'est plus parfait que la multitude. Un gouvernement monarchique, si j'entends bien, quoi. Un gouvernement royal. c'est bon, le gouvernement divin ne peut être que royal. Mais les lois, le point de vue, et puis le point de vue, la prudence. Providence, le gouvernement divin. Alors, je me pose la question. Dans une théologie comme saint Thomas, quelle est l'utilisation de la philosophie politique aristotélique dans cette théologie? Et c'est ce très très gros problème, c'est un très très gros problème, de savoir comment le théologien se sert de la philosophie. Et pour nous c'est très important, puisque nous faisons de la philosophie, nous la poussons le plus qu'on peut, puis on fait de la théologie. Il faut quand même voir comment le philosophe en devenant théologien devient quatre sauces.
Saint Thomas se sert de la politique, il sert aussi tout au long de la métaphysique, enfin il prend tout à la fois.
Il prend tout à la fois.
Il y a aussi toute une, je ne vais pas trop regarder, mais il y a toute une métaphysique présente derrière le gouvernement divin aussi tout le long.
Toujours. Donc au fond, il ne se sert pas directement de philosophie.
Non, il s'en sert à travers la métaphysique.
Bon, à travers la métaphysique, c'est ça, c'est déjà très important. C'est donc une vision. Tandis que nous ferions, nous, une philosophie politique pour une philosophie politique, pas à travers la métaphysique. Tandis que lui, en tant que théologien, c'est par le filtre de la métaphysique qu'il peut se servir d'une anthropologie. Si la politique fait partie d'une anthropologie, ce que je crois, c'est une des dimensions d'anthropologie humaine, on voit qu'il ne se sert pas directement de l'anthropologie. Et c'est toujours pour savoir si la fameuse parole de Rahner est juste. Vous savez bien cette parole de Karl Rahner qui a dit la théologie moderne, quelle est la différence entre la théologie moderne et la théologie classique ancienne, celle de saint Thomas, c'est ça qui est en jeu, c'est qu'à la place de se servir d'une métaphysique, on se sert d'une anthropologie. C'est ça la théologie moderne. Alors voyez, est-ce qu'on peut se servir directement d'une anthropologie, ou est-ce que nécessairement le théologien, quand il se sert d'une philosophie, ne peut se servir des différentes parties de la philosophie qu'à travers la métaphysique?
Est-ce qu'on ne peut pas dire que déjà au début de la somme, ce qui permet de faire la somme théologique, c'est le fait qu'on puisse remonter l'existence de Dieu qui ne peut se faire que par la métaphysique, déjà dès le départ, à partir de la métaphysique.
On se sert de...
Oui, les pourras.
Oui, les pourras.
Toute la somme est conditionnée par le...
Les pourras, permettons de poser l'identis.
Par les voies de...
Permettons de poser l'identis, tout à fait. Et bon, là, on est en métaphysique. Oui.
Est-ce que l'anthropologie n'exige pas, ne réclame pas la métaphysique?
Non, pas explicitement. Du moins, oui, faisons attention. Ça dépend de ce qu'on parle en anthropologie. Quand les modernes parlent d'anthropologie, non. Le mot anthropologie, vous savez bien, le premier qui l'a employé, c'est Kant. Je ne crois pas que c'est employé avant. Si vous le voyez une fois le mot anthropologie avant, vous me le direz. Parce que moi, je crois que c'est Kant le premier. Jusqu'au maintenant, dans mon enquête, c'est Kant. Il y en a peut-être un autre qui l'a employé avant. Pour Kant, c'est évident qu'il n'y a pas de métaphysique. Pour nous, dans une philosophie réaliste, je dirais qu'on ne peut pas faire une anthropologie sans métaphysique.
L'anthropologie ne se termine pas elle, mais elle est...
Parce que l'homme demande d'être dépassé par le... D'être dépassé. Mais vous voyez, aucune anthropologie, en dehors d'une anthropologie réaliste, me dira ça. Oui. Parce que c'est justement le dépassement de l'anthropologie et de métaphysique qui fait que l'anthropologie, elle, est dépassée. Et la métaphysique permet de mieux comprendre l'homme pour voir que l'homme se dépasse par l'esprit et par la recherche de l'être premier dans les générations. Là, ce qui me semble important, voyez, c'est de comprendre que... Parce que ça, c'est intéressant à voir ça. Il faut réfléchir là-dessus pour voir la structure de la pensée de saint Thomas. Les... quatre grandes ou les cinq grandes parties de la philosophie ne pourront être utilisées par la théologie donc par la foi, que dans la mesure où elles sont assumées par la métaphysique. Et alors, est-ce que la métaphysique pourrait être utilisée par la part doit-elle pas être au niveau d'une théologie naturelle? Autrement dit, seule la théologie naturelle pourrait être immédiatement utilisée par la foi. Et pas la métaphysique. Je dis ça, c'est parce que la théologie de saint Thomas est une théologie qui cherche le comment. Elle ne cherche pas les principes. Elle ne peut pas. Et la théologie naturelle est une théologie, une philosophie du comment. Alors, il y a là un parallélisme entre les deux qui permet l'utilisation. Alors, c'est, je crois, la théologie naturelle et la critique qui peut être immédiatement utilisée par la foi, mais pas les autres parties de la philosophie. Ça, c'est à chercher. Et je crois. Vous voyez ? Et alors, ce serait intéressant, vous voyez, si on remontait de ce qu'on avait vu d'Aristote à la manière dont saint Thomas utilise. La manière dont Aristote a regardé la philosophie et la manière ici dont saint Thomas utilise. Après avoir fait ça, il y a une petite conclusion intéressante de l'utilisation de saint Thomas de la pensée d'Aristote. Dans cette théologie. Et alors vous verriez, et ça c'est ça qui m'a impressionné, parce que d'après le développement, je ne sais pas si c'est par une espèce de flair personnel ou si c'est par un choix personnel, vous avez donné une place énorme à la prudence. Hein?
Oui, parce que c'est tout de suite la première question sur la providence, c'est tout de suite ça.
C'est tout de suite ça. C'est tout de suite sur le point de vue de la prudence. Alors est-ce que c'est par le point de vue de la prudence que la philosophie première, que la politique va être assumable en premier lieu. La prudence politique nous mettant en face d'une providence et d'un gouvernement divin. Oui. Alors, vous voyez, à partir de la prudence, ça présuppose, on avait tout loué. La prudence, ça présuppose la finalité. La prudence, elle est une ou plusieurs suivant qu'il y a un conseil. La prudence implique le point de vue des lois. Et bien, tout est groupé autour de la prudence. Donc vos quatre, vous les ramenez à la prudence. Vous avez raison, dans une enquête première de Béricat, mais à fond, au terme, il faut les ramener tous à la prudence. Et voir que le noyau, la charpente qui unit la philosophie et la théologie au niveau politique, c'est la prudence. C'est la seule chose qui nous. Oui. C'est la prudence politique. C'est bien.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.